Les colloques du Collège de France.
Mais nous allons passer maintenant à la communication de Martine Valrave sur les paratextes des évangiles. Donc je rappelle que Martine Valrave est historien de l'Église. Il a fait sa carrière à Bâle et aujourd'hui à Munich. Il est bien connu, évidemment, pour ses travaux sur les historiens ecclésiastiques, Socrate le scolastique ou Julius Africanus en particulier. Et donc, il a travaillé sur l'histoire de l'historiographie ecclésiastique, mais également sur l'histoire de la liturgie, de l'œcuménisme et sur la théologie interculturelle. En 2016, il a obtenu une ERC sur les paratextes de la Bible, et donc nous sommes en plein dans le sujet de ce colloque. Et il a fait paraître en 2021 un ouvrage consacré aux tables des canons d'Eusèbe de Césarée, et il s'est intéressé plus largement aux questions des tables dans les manuscrits bibliques, qui sont aussi des formes de paratextes. Et donc il va nous parler maintenant, je recherche le titre, merci, de la mise en scène des évangiles, remarque sur les rapports entre sacralisation et paratextualité.
Merci de cette introduction et de la présentation. Quand on pense au paratexte, au moins dans le monde des manuscrits, on pense normalement à une réalité marginale, comme on a bien entendu dans la conférence précédente. On pense à des additions à un texte principal, avant ou après, ou très souvent littéralement à la marge d'un manuscrit. On pourrait même avoir l'idée d'organiser un colloque entier sur la philologie des paratextes et l'intituler « Imarginé ». L'idée n'est ni mauvaise ni trop trompeuse et je suis ravi de faire partie d'une telle entreprise. Je vous prie toutefois de m'excuser si je dois jouer un peu les rabat-joie. Non pas tant parce que mon exposé s'écarte du thème, mais plutôt parce que je souhaite mettre en garde contre un malentendu important. Je signale immédiatement ce malentendu parce que c'est là mon message principal et je vais l'expliquer en trois parties. Il est vrai que les paratextes sont par nature secondaires et marginaux par rapport à un texte principal. Cependant, secondaire et marginal ne signifie pas nécessairement secondaire sur le plan conceptuel ou chronologique, ni nécessairement marginal en termes d'espace ou de rang. Pour étayer davantage cette affirmation, je voudrais tout d'abord rappeler brièvement la définition des paratextes en y associant quelques considérations théoriques. Cette première partie sera succincte aussi parce que je peux me référer aux remarques éclairantes de Francesca de hier matin. La deuxième partie portera spécifiquement sur les évangiles et plus précisément sur la manière dont la paratextualité émerge dans la tradition manuscrite de ces textes et comment ce concept devient une mise en scène délibérée. Les paratextes renvoient toujours à des artefacts très concrets, souvent des pièces uniques, dans un esprit hands-on. Je souhaite donc présenter deux cas particulièrement intéressants dans la troisième partie. Comme chacun sait et comme on a évoqué plusieurs fois hier, le terme paratexte est un néologisme inventé par Gérard Genette dans les années 80 du siècle dernier. Ce concept s'est rapidement et largement imposé car il désigne manifestement quelque chose qui mérite d'être désigné, en d'autres termes parce qu'il comble une lacune. Dans le domaine de l'exégèse biblique, il suffit de rappeler le titre alambiqué que le bénédictin belge Donatien de Brune a dû donner à son ouvrage, qui d'ailleurs reste d'actualité, Préface, sommaire, division et rubrique de la Bible latin, nos murs 1914 et 20. Et ces catégories ne couvrent même pas tout ce qu'il y a là-dedans. Bien qu'il provienne à l'origine d'un tout autre domaine, le terme de paratexte s'est rapidement imposé, notamment dans le domaine de la recherche sur les manuscrits. Dans ce contexte, il n'est peut-être pas tout à fait superflu de rappeler que ce terme, pris au sens littéral, peut aussi induire en erreur. Le paratexte traduit par « texte à côté » n'est pas utilisé par Genette dans un sens spatial ou géométrique et il n'est généralement pas compris ainsi dans nos disciplines. « Imarginé » n'est donc pas une traduction de paratexte. Peut-être que le terme périgraphie serait en effet plus approprié. C'est plutôt le titre de l'ouvrage de référence de Genette qui met sur la bonne piste, « Seuil ». Il s'agit de textes qui forment un seuil entre l'auteur et le lecteur, c'est-à-dire des instances de médiation telles que titre, le texte de quatrième de couverture, la préface, la publicité de l'éditeur, etc. Les textes auxquels Genette pensait avant tout étaient littéraires et auctoriaux, et il est évident que ce concept doit être adapté aux études sur les manuscrits. Tous les textes ne sont pas auctoriaux et il peut y avoir un grand écart temporel et culturel entre la rédaction et l'acte de l'écriture. La genèse du texte et celle du paratexte peuvent également être très éloignées l'un de l'autre. La notion de publication au sens moderne n'a souvent aucun sens. À l'inverse, il ne faut pas non plus commettre l'erreur de penser que les paratextes dans les manuscrits sont nécessairement non auctorieux. Le héros de la partie suivante en sera un contre-exemple important. Le concept de seuil reste néanmoins important. Il exprime le fait que les paratextes, indépendamment de leur position spatiale et du moment de leur genèse, ont une fonction de médiation entre le monde du texte principal et celui des lecteurs. Le constat fondamental pour la suite est le suivant. Cette fonction peut, mais ne doit pas nécessairement faire partie d'une stratégie consciente et réfléchie. Si c'est le cas, on peut parler de mise en scène. En d'autres termes, la fonction de seuil implique une orientation de la lecture. Celle-ci peut être plus ou moins voulue, plus ou moins explicite et évidente. Au sens figuré, mais pas au sens littéral et spatial, on peut également dire qu'elle peut être plus ou moins marginale. Dans ce que suit, nous parlerons de mise en scène, c'est-à-dire de l'utilisation consciente et délibérée de paratextes dans le dialogue entre la réalité du texte et la réalité de la lecture. Il n'existe probablement nulle part dans le monde de la culture euro-méditerranée un cas où l'on puisse saisir l'émergence de ce phénomène avec autant de précision, le dater aussi exactement et même le localiser aussi précisément que dans la Bible chrétienne ou plus précisément encore dans les évangiles. Car il s'agit là d'une entité macroscopique, c'est-à-dire nullement marginale, que l'on peut presque qualifier de creatio ex nihilo. La datation et la localisation mentionnées nous mènent au scriptorium de Césarée en Palestine au tournant du 3e et du 4e siècle. D'un point de vue de l'histoire des médias, cela devrait être lié au changement de support d'écriture, à savoir du papyrus ou parchemin. L'histoire de ce scriptorium est liée à des noms prestigieux tels qu'Origène, Pamphile et Eusèbe. Sous leur égide, des manuscrits bibliques ont été produits qui, par leur format, le soin apporté à leur fabrication et leur qualité esthétique, représentaient un véritable bond en avant par rapport aux anciens livrets de papyrus. Voilà. Dans ce contexte, j'ai comparé de manière politiquement incorrecte la situation à la relation entre Fiat et BMW. Peut-être vaudrait-il mieux parler ici de la relation entre le manger bavarois et l'art culinaire français. Alors pour ceux qui se rappellent encore d'un CD, pour comparer un peu les dimensions. En quelque sorte, nous pouvons observer par-dessus l'épaule des érudits lors de la production de ces manuscrits d'un nouveau type, car plusieurs colophons ont été conservés. Le codex passe ainsi d'un objet utilitaire à une œuvre d'art personnalisée. Les colophons ne sont pas le seul paratexte à avoir vu le jour dans ce contexte. Des outils de navigation et des aides à la lecture exégétique ont également été créés. Les premiers témoignages en sont visibles dans le psautier, mais aucun système n'était aussi somptueux, aussi ingénieux et aussi réussi que les canons des évangiles. Je les ai qualifiés ailleurs de reines des paratextes, et elles le sont. Même plus tard, l'interaction complexe entre texte et paratexte, la mise en œuvre technico-artistique et l'importance pour l'œuvre d'art totale n'atteignent plus le niveau atteint par Eusèbe au début du IVe siècle. Ce n'est manifestement pas seulement mon opinion, mais aussi celle d'innombrables scribes et érudits au fil des siècles, car le système a connu un succès incroyable. Malgré sa grande complexité, il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit du texte le plus copié de toute l'Antiquité, à la seule exception de son texte de référence, c'est-à-dire la Bible. Quelques centaines, voire plusieurs milliers d'exemplaires en grec, latin, syrien, arménien, géorgien, éthiopien et dans d'autres langues nous sont parvenus. Il s'agit en substance d'un outil savant sobre destiné au travail exégétique. Il remplit en quelque sorte la fonction que remplit une synopse pour l'exégète moderne. Cela repose donc sur le constat que les quatre évangiles rapportent quatre fois différemment, quatre fois la même chose. Le système tire son énergie de l'unité de l'évangile en tant que principe théologique et de la diversité des évangiles en tant qu'œuvre littéraire. Il était important pour Eusèbe que le texte lui-même ne soit pas interrompu et que son ordre ne soit pas modifié, contrairement à ce qui se passe dans une synopse moderne. Le texte est divisé en sections à l'aide des chiffres en marge, in margine, je reste donc dans le sujet. Ces chiffres sont répertoriés dans les tableaux au début du codex. Ils ont donc une fonction de référence. Un collègue américain a parlé à juste titre de the world's first hot links. Dans le tableau, on peut déterminer s'il existe des parallèles à une section et si oui, lesquels. Eusèbe explique l'ensemble du système dans un bref texte d'accompagnement. Il s'agit d'une lettre adressée à un certain Carpianus dont on ne sait rien d'autre. Jusqu'ici, tout est clair, j'espère, et probablement aussi bien connu. Mais ce qui m'importe ici, c'est ceci. Déjà dans le manuscrit du XIIe siècle que nous voyons ici, on constate que ces tableaux sobres produisent une sorte de surplus esthétique qui ne se limite pas à leur fonction pratique. On a les oiseaux, les plantes, les colonnes, etc. Ma thèse est que cet excès esthétique était présent, évolue dès le départ, et qu'il n'y a pas seulement une connotation esthétique, mais que celle-ci est directement liée à la sacralisation du texte. Les arcs sur les canons constituent un premier indice. Déjà dans les plus anciens exemplaires conservés et dans toutes les zones linguistiques, les tables s'inscrivent dans un cadre architectural qui, d'un point de vue fonctionnel, n'est en rien nécessaire. Les colonnes sur les pages, souvent dotées de bases et de chapiteaux, les arcs qui les surplombent, souvent disposés en deux rangées superposées, ne transmettent aucune information supplémentaire. De plus, il convient de noter ceci. Eusèbe souligne certes que son œuvre d'art total ne doit ni toucher ni interrompre le texte proprement dit, qu'elle doit donc se tenir modestement en arrière-plan, plus précisément en marge. Pourtant, il ne place nullement ses tableaux modestement à la fin, mais les place avec assurance au début du codex. Il constitue l'entrée en matière d'un codex du style nouveau. Ce sont les propylées des évangiles. L'observation suivante s'inscrit également dans ce cadre. Dans certains manuscrits, l'ensemble du tableau est couronné d'un tempietto avec une inscription. On le trouve sous forme similaire dans différentes régions linguistiques. Il est peu probable que les Latins et les Éthiopiens les Grecs et les Arméniens aient développé cette forme de décoration indépendamment les uns des autres. Il faut plutôt supposer que le tempietto, tout comme le texte qui l'accompagne, principe du canon de la symphonie des évangélistes, remonte à l'archétype. Il s'agit de la visualisation du nouveau temple chrétien, non pas construit en pierre, mais en sanctuaire du texte. En règle générale, ce sont quatre colonnes qui soutiennent un toit commun, la quatuor des évangiles et l'unité de l'évangile. Dans une exception spectaculaire, une autre visualisation de la même idée a été choisie. Dans le codex pourpre de Rossano, nous voyons quatre clipéi directement inscrits des noms des évangélistes et nous voyons comment ils sont entrelacés pour former un cercle, lui aussi inscrit principe du canon de la symphonie des évangélistes. On peut supposer que ce magnifique manuscrit comportait également les tables du canon et nous aimerions beaucoup savoir à quoi il ressemblait, mais malheureusement, il n'en reste rien. L'époque à laquelle Eusèbe a écrit est celle où le canon de la Bible chrétienne a été largement défini de manière définitive. Il se peut qu'Eusèbe lui-même ait joué un rôle essentiel dans ce processus. Nos discussions historiques à ce sujet sont toutefois trop souvent limitées à la question de savoir quels écrits faisaient partie ou non du canon, en quelque sorte selon une logique binaire, 0 ou 1. À cet égard, la situation des évangiles était claire depuis longtemps. Personne ne remettait en question le choix des quatre évangiles, des quatre textes canoniques, mais il ne s'agit pas seulement d'une question d'inclusion ou d'exclusion. La canonicité a aussi pour essentiel à voir avec la valeur et la dignité du texte. Le judaïsme avait depuis toujours une écriture sainte, mais les écrits chrétiens supplémentaires ne deviennent pas sacrés simplement par une instance ecclésiastique ou certains intellectuels qui les décrètent. Ils deviennent sacrés par les pratiques textuelles, leur mise en scène dans la vie des croyants. Il n'était pas nécessaire de comprendre les subtilités techniques des tables de Zeb pour saisir qu'un tel évangiliaire de style nouveau, issu du scriptorium de Césarée, n'est pas simplement un livre quelconque. C'est une écriture sainte, mise en scène et présentée avec un paratexte spectaculaire qui ne se limite nullement à une place en marge, mais qui s'impose au premier plan. Même les scribes ultérieurs n'ont pas toujours compris ce qu'ils recopiaient, mais cela n'a en rien entamé leur dévouement. De plus, ce vaste paratexte a également des répercussions sur le texte lui-même. Il l'immunise dans quelque sorte, car chaque évangile se compose désormais d'éléments distincts qui entretenaient une relation définie les uns avec les autres. On ne peut plus simplement omettre ou ajouter quelque chose. La partie finale secondaire, plus longue, de Marc, montre à quel point cela peut être difficile. Si le canon est ce à quoi s'applique, tu n'ajouteras rien et tu n'enlèveras rien, alors les évangiles sont définitivement canonisés et sacralisés par le système de Zeb. Je voudrais finalement illustrer cela à l'aide de deux exemples concrets. Il s'agit du seul cas connu des tables de canon sur or et du seul cas connu des tables de canon sur pourpre. Ce sont donc, dans le panorama global des centaines d'exemplaires grecs, des cas vraiment particuliers, distingués par un critère de matérialité. Ce n'est pas un critère arbitraire, car lorsqu'il s'agit de mise en scène, l'utilisation des matériaux très précieux est manifestement un élément important. En même temps, il s'avérera que ces deux cas posent des problèmes très spécifiques et ne peuvent donc certainement pas être qualifiés de typiques. Dans les deux cas, il s'agit de fragments, à savoir, par hasard, quatre pages dans les deux cas.
Le fait qu'il s'agisse de fragments n'est toutefois probablement pas un hasard, car c'est précisément la valeur, non seulement du matériau, mais aussi de la décoration du livre, qui invite à séparer ces pages du livre pour les montrer, les voler, les vendre, les conserver en cas de perte ou de mise au rebut du livre, voire les mettre en scène en tant que pièces distinctes. Ici aussi, on constate que le paratexte peut être plus précieux, plus noble, plus sacré que le texte. Dans le premier cas, précisément, il s'agit d'un objet d'une splendeur envoûtante. La feuille entière est teintée d'or, de sorte que l'écriture et le décor se détachent sur un fond doré et brillant. Nous ne savons pas si l'ensemble du livre était doré, ni s'il n'a jamais été achevé. Seules deux feuilles, soit quatre pages, ont été conservées, précisément celles contenant les tables des canons. Aucune dépense ni aucun effort n'ont été épargnés lors de sa production. Ce sont sans doute des meilleurs artisans de l'époque qui ont travaillé à sa réalisation. Les spécialistes situent sa datation au 6e ou au 7e siècle. Le premier me semble plus probable que le second, car qui sait si au 7e siècle le savoir-faire nécessaire pour réaliser une telle œuvre existait encore. Kurt Weitzmann qualifie cette pièce de « perhaps the most precious fragment of any early Christian manuscript ». Un historien de l'art qui a beaucoup travaillé sur les débuts de l'enluminure et qui peut être considéré comme le meilleur spécialiste des tables du canon, le Suédois Karl Nordenfalk, a qualifié les feuillets de l'un des héritages les plus remarquables et les plus précieux de l'enluminure grecque qui soit. C'est à juste titre que ces feuillets ont attiré l'attention des historiens de l'art. Le manuscrit, ou plutôt le fragment de manuscrit, est assez connu et a souvent été reproduit. Il est étonnant malgré tout que personne n'ait jusqu'à présent pris la peine de transcrire et d'analyser les chiffres des tableaux un par un. Je me suis attelé à telle tâche et j'ai fait un constat surprenant, voire frustrant. L'admirable éclat doré et la très grande qualité de la décoration artistique contrastent avec le contenu du tableau, car les chiffres n'ont tout simplement aucun sens. En tout cas, je n'ai pas réussi à y trouver un sens, bien que j'ai déployé tous les efforts imaginables. Ces pages somptueuses se présentent comme les tables de Zeb, et la structure ainsi que les titres des colonnes correspondent bien à cela, mais les chiffres dans les colonnes n'ont rien à voir avec Eusèbe. Pour être encore plus clair, il ne s'agit pas d'une variante inconnue, ni d'une copie déformée et truffée d'erreurs. Cela n'a tout simplement aucun rapport avec Eusèbe, ni d'ailleurs avec aucun système comparable de synopses. Il n'y a pas non plus de logique mathématique derrière ces suites de chiffres, au moins sur la base de ce que je peux constater. Bien sûr, on ne peut pas totalement écarter la possibilité qu'il existe une interprétation jusqu'ici inconnue, par exemple de la cryptographie, un oracle numérique ou autre chose. Il vaut donc la peine d'attirer l'attention sur le problème ici, car peut-être qu'une personne avisée pourra encore fournir des indices. Ça me fait plaisir de parler avant une salle de personnes intelligentes, donc il y a peut-être des chances. Il vaut donc la peine pour l'instant, on reste toutefois à la constatation quelque peu désemparée que l'objet représentatif et le décor somptueux étaient plus importants que le contenu. En bref, que l'or et la splendeur sont en eux-mêmes le message. Ou, pour le formuler autrement, le paratexte n'est plus ici un texte au sens d'un vecteur de sens, c'est-à-dire d'une fonction concrète de transmission du contenu. Il n'a plus qu'un effet performatif en termes de dépenses matérielles et de plus-values esthétiques et de sacralité de mise en scène. Dans le deuxième cas que je souhaite présenter, les choses sont tout à fait différentes. Il s'agit d'un fragment jusqu'ici ignoré par la recherche. Les deux précieuses feuilles pourpres appartiennent au monastère de Vatopedi sur le mont Athos. J'ai eu le privilège d'étudier ces feuillets de manière approfondie à la fin de l'été dernier. Une brève notice à leur sujet vient de paraître. Je profite aujourd'hui de l'occasion pour attirer l'attention du public sur cet artefact, car il mérite qu'on s'y intéresse. La provenance n'est pas tout à fait claire. Ces feuillets étaient autrefois reliés dans un codex du Xe siècle avec lequel ils n'ont toutefois aucun rapport. Depuis environ 30 ans, ils sont conservés dans le trésor du monastère et non dans la bibliothèque. C'est pourquoi ils n'ont pas fait l'objet des récents efforts de catalogage des manuscrits de Vatopedi. Je remercie toutefois Erich Lamberts, actuellement le meilleur spécialiste des manuscrits de ce monastère, pour son aide dans l'étude et pour les informations complémentaires qu'il m'a fournies. Je suis aussi reconnaissant à la communauté monastique qui m'a permis d'étudier ces documents de près. Quand je dis qu'il s'agit de deux feuillets, ce n'est pas tout à fait exact. En y regardant de plus près, on constate que chaque feuille est constituée de deux feuilles de parchemin collées ensemble. Il s'agit donc en réalité de quatre feuilles qui ne sont toutefois teintes en pourpre que d'un seul côté et qui ne sont certainement écrites que d'un seul côté. Ce qui a été conservé sont les canons 1 à 3 de l'ouvrage. On peut en déduire qu'il s'agissait au total d'une mise en page de 10 pages. La qualité, tant des chiffres que de la décoration, est élevée, contrairement aux fragments de l'antre. Les chiffres sont ici utilisables et les erreurs sont rares. Sous réserve d'analyses complémentaires, qui sont d'ailleurs prévues et méritent d'être menées, une datation au Xe siècle semble plausible. Cela s'explique par l'écriture, la mise en page et l'enluminure. Les 10 pages des tables, écrites sur une seule face, ont nécessité 10 feuilles pourpres. À cela s'ajoute la lettre à Capenus ainsi que d'éventuels autres éléments, tempieto, titre, etc. Contrairement au codex pourpre de l'Antiquité tardive, l'investissement matériel est ici d'une part moindre, car seule la surface devait être teinte, d'autre part plus élevée, car il fallait deux fois plus de parchemin. Il est peu probable que l'ensemble de l'évangile évangiliaire ait été conçu sous cette forme somptueuse. Il existe des exemples d'évangiliaires où seules les tables des canons sont écrites sur une seule face, même si ce n'est pas pourpre, et d'autres où seule une partie représentative du codex est réalisée en pourpre, même si ce ne sont pas les tables du canon. Il est donc tout à fait concevable que le codex pour lequel ces magnifiques pages pourpres ont été réalisées soit conservé. Qu'il soit conservé ou non, nous voyons ici en tout cas un exemple spectaculaire de paratexte qui, en termes d'efforts matériels et artistiques, surpasse de loin le texte principal. Il ne fait aucun doute que cette somptueuse mise en scène pourpre a été choisie pour créer une sorte d'entrée en matière qui souligne le caractère sacré du livre. Certes, nous parlons ici de paratexte, de seuil entre le monde du texte et celui de la lecture. En ce sens, ils sont secondaires par rapport au texte principal et ils sont marginaux car ils se situent à côté du texte, au début du codex et en marge du texte. Mais je conclurai par la remarque que j'ai faite au début. Secondaire et marginal ne signifient pas nécessairement secondaire sur le plan conceptuel ou chronologique, ni nécessairement marginal en termes d'espace ou de rang. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.